Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Donc, le Cantique des Cantiques, et je me suis permis de mettre une belle photo. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Est-ce que vous avez déjà lu le Cantique des Cantiques?
Oui.
Levez un peu la main si vous l'avez lu, que je regarde un petit peu
en auditoire. Partiellement ça compte aussi.
Tu as lu le titre?
Oui,
j'ai lu le Cantique. Le Cantique des Cantiques. Alors, c'est un chant. À l'origine, c'est un chant composé par Salomon. Alors bon, vous savez que la critique théologique remet toujours en question les écrivains, etc. Mais ça me réussit bien Salomon. Cantique des Cantiques, c'est-à-dire le meilleur des cantiques, le cantique par excellence, un chant par excellence, c'est un chant d'amour. Alors, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Très classique, très très beau, très romantique, certainement. Mais qui derrière ce... Si vous voulez, cette expression qui est à la fois sensuelle, je dirais même conjugale, très, très forte, très, très poussée, il y a un message qui est beaucoup plus fort, c'est un message spirituel où Dieu parle de son amour pour son peuple et par voie d'extension, ça serait l'amour de Christ pour son Église. Donc, quand vous lisez le Cantique des Cantiques, vous lisez un chant d'amour de Dieu pour son peuple. Et ce qui est remarquable, c'est que souvent nous avons, nous, des propos très durs contre les uns, contre les autres, contre l'Église, parfois, des fois on n'est pas toujours très gentil. Et quand Dieu parle de l'Église, il utilise des mots les plus beaux. Vous avez vu les mots qu'il va utiliser ? Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pur comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Alors, il y a eu des tas d'interprétations. Il y en a qui voient deux personnages, d'autres qui voient trois personnages. Qui est cette jeune femme dont il s'agit? Est-ce c'est une favorite de Salomon? Est-ce que c'est une de ses maîtresses? Est-ce que c'est une, semblerait que ce soit une bergère? Et puis les questions d'un berger, alors c'est une histoire de bergère et de berger, oui, c'est encore très très romantique, très pastoral, etc. En fait, on ne sait pas trop, ce que l'on sait, c'est que c'est un livre qui est vraiment très beau. Et quand on le lit, ce livre va traiter de notre relation avec Dieu. Une relation qui serait individuelle, mais une relation qui est également communautaire. Et en même temps, la lecture de ce livre va élever le niveau de nos aspirations et nous permettre de mieux comprendre, mieux aimer, mieux saisir les choses de Dieu. Alors, dans notre texte, avec quelques images, j'ai mis que des images, vous allez voir, des images qui sont riches en couleurs, on voit la beauté du corps de Christ. Ou la lumière, puisque je suis toujours dans le thème sur la lumière. D'ailleurs, je me disais une chose pendant que je préparais cette méditation. Je me disais, et finalement, j'aurais dû proposer à mes collaborateurs et proposer à l'Église d'étudier pendant plusieurs mois le thème de la lumière. Parce que finalement, plus au début, j'étais là, je cherchais un petit peu où j'irais. Et puis finalement, tant plus je me penche sur le thème de la lumière, et plus je me rends compte combien c'est vaste, et je m'en suis rendu compte ce dimanche à la réunion des hommes, alors je ne sais pas si c'était pareil à la réunion des frères, on a fait exactement comme vous avez fait, avec une lecture du mot lumière, en acrostiche, vous avez retenu le nom, on a dégagé d'autres mots, etc. Alors je ne sais pas pour vous les filles, mais alors nous les gars, on avait une abondance de mots. Hein. On en avait trouvé tout un paquet, des mots... extraordinaire, etc., etc., sur le mot lumière. Et le thème de la lumière est vraiment très riche Je suis même allé lire un petit peu dans le prophète Ésaïe, puisque c'était Amédée qui, de nous, à un moment donné, devait avoir sa Bible ouverte sur Ésaïe, et nous balancer des versets sur Ésaïe, Ésaïe, Ésaïe. Alors je me suis dit, mince, je ne pensais pas qu'il y ait tant de textes chez Ésaïe. Du coup, je me suis mis à creuser Ésaïe, mais à la fin du mois, on s'arrête et on passera au thème suivant. En tout cas, on voit dans ce texte du Cantique des Cantiques des images extrêmement colorées, lumineuses. Et c'est pour nous comme le reflet de la beauté du corps de Christ, où la lumière qui s'en dégage vient de Dieu, vient du Seigneur Jésus. Et Jésus, ou Dieu, nous parle de son Église et nous dit comment il la voit. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Alors bon, je suis désolé, cette pauvre femme qui est au milieu, je sais pas qui c'est, chercher sur Internet, aurore, j'ai eu du mal à trouver, j'ai tapé lever du jour, et voilà. C'est dans le Queyras, c'est dans ma région d'où je viens, il y a une dame qui est là, bon, je pense pas la connaître, en train de contempler un lever de soleil. Et cela nous parle du témoignage de l'Église. Si vous voulez, semblable à l'aurore qui annonce un jour nouveau, l'Église annonce un jour nouveau. Vous avez déjà assisté au lever de soleil? Bon, en plein été, quand le soleil se lève très tôt, c'est plus compliqué. En ce moment que le soleil se lève aux alentours de 8 heures, ça va, dans quelques temps, il va se lever un peu plus tard. C'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que le lever de soleil, comme un coucher de soleil, d'ailleurs, c'est admirable. C'est un jour nouveau. Et le jour nouveau, c'est le jour où Jésus est venu dans notre vie. Est-ce que vous en souvenez? Karel, tout à l'heure, me disait qu'elle avait un an de baptême avec Eraste, avec Grécie. Donc c'est quand même récent. Le jour nouveau n'est pas si ancien que ça. Pour moi, ça fait quelques décennies maintenant, quand même, pour Hélène aussi. Bon. Il y a eu pour nous un jour nouveau qui s'est passé. Un jour, nous avons rencontré le Seigneur. Et c'est le jour où le Seigneur peut venir dans la vie d'un autre aussi. C'est notre rôle de témoin d'annoncer cela. Et aussi le jour où il reviendra, c'est l'attente de l'Église. Et Malachie dira par exemple, « Voici le jour vient, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera un soleil de justice et la guérison sera dans ses rayons. » Constamment, la notion du soleil, de la lumière, de la luminosité apparaît dans la Bible comme étant quelque chose de beau, quelque chose de vivace. Et c'est vrai que le Christ apporte la paix, la joie, le bonheur dans nos vies, comme étant dans un jour nouveau quelque chose qui vient nous bouleverser le jour où il vient dans nos vies. L'Église a toujours réalisé ce témoignage. Dès le début, dans les Actes des Apôtres, ceux qui entendirent la parole de Pierre, vous rappelez ce verset, ceux qui entendirent la parole de Pierre, c'est dans quoi ça? Dans les Actes, chapitre 2, verset 37. Ceux qui entendirent la parole de Pierre se convertirent et se firent baptiser. En ce jour-là, le nombre des baptisés se trouva de 3000 personnes. Alors, le texte continue comme cela. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans les fractions du pain. La crainte s'emparait de chacun. Chaque jour, ils étaient ensemble, assidus au temple. Ils rompaient leur pain dans les maisons et se réjouissaient de se retrouver tous ensemble. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église a toujours eu cette puissance dans le témoignage, ce désir de véhiculer la parole qu'elle a connue. Et c'est comme une aurore nouvelle, un jour nouveau qui vient dans les cœurs. Alors qu'en est-il pour nous? Quelle est notre préoccupation? Quelles sont nos aspirations? Que désirons-nous vivre avec Dieu? Désirons-nous vivre des expériences nouvelles, toujours plus grandes, plus approfondies? Est-ce que le Christ est toujours au centre de notre vie, au centre de notre témoignage? Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Qui est celle qui est belle? C'est beau, hein, ce lever de cette lune. Qui est belle comme la lune. Alors, mercredi dernier, après la répétition, je ramenais Jévic à la voiture, tension. Hein. On regardait la lune, elle était en train de juste de se lever. Elle était énorme. Tu crois ces fruits-là? Alors ce jour-là, c'était la pleine lune. Et quand c'est la pleine lune, il y a 99% de luminosité. Là, c'était 99,6% avec une lune énorme. Et quand la lune est grosse, c'est qu'elle est plus proche de la Terre. Alors nous, le soir, quand on rentre à la maison, vous savez que notre village est situé au sud-est de Poitiers. Et quand on rentre à la maison, souvent on a de la lune en face. Tu vois à quelle heure on part de l'église, si on est bavard ou pas, si on est un peu plus bavard, on part un peu plus tard, il y en a de la lune juste en face. Vous savez que la lune, quand elle brille fort, quasiment elle est éblouissante. Bon, je vais pas mettre mes lunettes de soleil, quand même, pour conduire ma voiture quand on rentre à la maison, mais c'est éblouissant. Et je trouve que la lune, un paysage de lune, c'est magnifique. Alors, bon, j'aime bien les photographier la lune, c'est un peu compliqué, parce que d'abord, elle bouge dans le ciel, et puis il faut attendre un petit peu pour la prendre, mais c'est quelque chose de magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez de ma photo? Bon, c'est pas moi, hein. C'est Google qui me l'a donnée. Sinon, j'ai celle-là, si vous voulez, j'en ai une autre. Je n'ai plus une lune, je dis, parce que je ne la serais pas gagnée de... Puis finalement, là-dessus, elle est plus belle là que là. Alors, je la regarde là. Elle vous plaît, celle-là? C'est une lune pâle. Quelle heure avec un... Magnifique. Vous savez pourquoi la lune est belle? À votre avis, pourquoi la lune est belle? Elle reflète le soleil. La lune, c'est un astre mort, vous le savez. Et elle reflète le soleil. Il paraît que d'ici quelques semaines, on va avoir une deuxième lune qui va se balader dans le ciel. Bon, elle n'aura rien à voir avec la grosse, ce sera une lune minuscule qui sera là, qui va venir un petit peu décorer notre ciel le soir. Ce que l'Église est, la beauté de l'Église vient de ce que Christ l'éclaire. Et si Christ éclaire notre vie, nous serons beaux. J'aime beaucoup ce texte dans les Hébreux, au chapitre 11, quand il est dit de Moïse que ses parents virent qu'il était beau à sa naissance. Je dis oui, mon frère, c'est normal. Quel est le parent qui ne trouve pas beau son enfant quand il vient de naître? C'est vrai que c'est jamais très facile parce que des fois, une maman elle vous montre son bébé. Il est beau. Des fois, on ne voit pas forcément le truc très beau, mais bon. Je me suis amusé à dire à une amie à nous, elle venait d'avoir son enfant. Elle a dit, qu'est-ce qu'il est moche, donc. Mais moi, je voulais rigoler, mais vous savez qu'elle n'a pas rigolé. Elle. Ah là 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 là, j'ai cru qu'elle allait me fusiller. Elle m'a fusillé du regard. Elle m'a dit, je dis, mais non, tu vois pas que je plaisante. En plus, il était beau. Il était beau. Les nôtres, ils étaient beaux, ça fait. Par contre, je pense que les parents de Moïse, quand ils ont vu que leur enfant était beau, c'était beaucoup plus que la beauté d'un bébé. Parce qu'il y avait dans la vie de Moïse quelque chose de particulier qui était la marque de Dieu. Et souvent, quand je regarde des chrétiens, je me dis, ils sont beaux. Alors rassurez-vous, même si vous avez la tête de travers, votre pasteur vous trouve beau. Pourquoi? Parce qu'il y a sur vous la beauté du Christ. Je dirais cette pureté intérieure, ce sentiment d'appartenir à Dieu, aussi le fait de s'être bien dans sa peau, parce que je trouve souvent les chrétiens sont bien dans leur basket, avoir le reflet de Dieu dans sa vie. Belle comme la lune. Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Ça se trouve dans Jean 8, 10, presque. 12. 8, 12. Jésus est la lumière du monde. Et il nous dira, vous êtes la lumière du monde. Ce qu'est Jésus, nous le sommes. Alors, on n'est pas destiné à se cacher sous un boisseau, mais Jésus va dire, on va vous mettre sur un chandelier, et là, vous allez briller. Alors on va briller non pas pour être brillant, mais pour refléter la lumière de Christ, la lumière qui éclaire tout en nous. Nous sommes la lumière du monde. Alors Philippiens nous donne un texte magnifique, chapitre 2, verset 15. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, attendez, écoutez bien, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'un monde corrompu, parmi lequel vous brillez comme des lumières dans le monde, en portant la parole de la vie. » Je relis ce texte, Philippiens 2, 15. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'un monde corrompu, parmi lequel vous brillez comme des lumières dans le monde, portant la parole de la vie. » La lune, astre mort, ne brille donc que par la lumière du soleil. Et cela met en évidence une certitude. Sans la communion avec Christ, rien ne peut se faire. En Christ, il y a la lumière et la lumière est en nous. En lui était la vie était la lumière des hommes. Cette lumière brille dans notre vie et nous avons la vie de Christ dans notre vie. Nous sommes élus en Christ pour être saints et sans défaut devant lui. Vous réalisez que vous pouvez être sans défaut? Voilà, je me rends compte que Natacha se réjouit à cette perspective. On pense à Joël. Je me rends compte qu'Hélène aussi frétille de joie en se disant « C'est vrai, Gérard un jour sera sans défaut, pour les soeurs, c'est pas gagné. » Être sans défaut, être à la lumière de Christ, être devant lui. Vous savez, en Jésus, il y a la rédemption qui est le rachat de ce que nous sommes, la délivrance, il y a la rémission, le pardon de nos péchés. En Christ, nous sommes devenus des héritiers, des personnes nouvelles qui sont changées. Et en Christ, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et quand on s'adresse à des chrétiens, on s'adresse à des gens nouveaux, métamorphosés, changés, bouleversés par la puissance de Dieu. Et tant que nous restons à la lumière de Christ, et tant qu'il a place au milieu de nous, nous sommes transformés à son image. Nous tous, qui est le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le ministère du Saint-Esprit. Et quand on contemple Dieu, on est changé.
Amen.
Vous savez qu'on ressemble à ce qu'on regarde? J'ai bien dit là. On ressemble à ce qu'on regarde. Bon, si vous regardez bien, vous serez bien changé. Si vous regardez des mauvaises choses, vous aurez un visage mauvais. Si vous regardez des bonnes choses, vous aurez un bon visage. Si vous regardez vers Dieu, vous aurez le visage de Dieu. Et tant que nous sommes à son contact, notre capacité à faire une chose vient de lui, et peu à peu nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le dit le Saint-Esprit. Alors nous aurons la beauté de Christ. Parfois, on se dit, tiens, comment je pourrais m'arranger, me bloquer, etc., etc. Bon, vous savez, vous pouvez faire ce que vous voudrez. Si vous êtes beau, vous le serez toujours. Si vous êtes moche, vous le serez toujours. Je n'aurais peut-être pas dû la faire, celle-là. Bon, pardonnez-moi, je l'efface et je recommence. Restons à la lumière de Christ. Laissons-nous embellir par le Seigneur.
Amen.
Je crois d'ailleurs ce verset... les proverbes. Un cœur joyeux est un bon remède. Et puis en même temps, quand le visage est abattu, il y a un texte qui nous dit que quand on regarde vers le Seigneur, on est beau. Je voulais chercher, vous le donnez dans son travail. Alors ça, c'est le psaume, je ne sais plus combien, 37. Quand on regarde vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage, de ce coup, pardon, mais ce n'est pas celui-ci. Ensuite, un cœur serein rend le visage heureux, un truc comme ça. Ah là là, bon écoutez, je ne m'en souviens plus. Vous le chercherez et vous le donnerez en sortant. Qui est celle qui paraît comme l'aurore, belle comme la lune, pure, pure, Ça marche pas. Tu peux me lancer. Pur comme le soleil. Il est bouclé.
Non, c'est bon.
Vous avez vu le soleil ? On se croirait dans le sud de la France, on se croirait à Gap. Pur comme le soleil. Et oui, dans l'Église, il y a la pureté de Christ. La parole de Dieu déclare dans les Éphésiens, chapitre 5, verset 25, « Christ a aimé son Église et s'est livré afin de la purifier et de la sanctifier. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette purification, cette sanctification a deux origines. Premièrement, la parole de Dieu. Jésus dira dans Jean 17, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. Cette purification se fait par la parole de Dieu, mais par le ministère du Saint-Esprit. Il est celui qui nous parle de Christ, qui nous parle de Dieu. Il nous révèle l'amour de Dieu, et lui seul a le pouvoir de nous conduire dans toute la vérité, à l'image de Dieu, dans la compréhension de Dieu. Et par ces deux puissances, la parole et le Saint-Esprit, par ces deux puissances qui influencent notre vie, on ne sera plus conditionné par le monde. Rappelez-vous, je ne sais plus, il y a pas longtemps que quelqu'un le citait, Romains 12, qu'est-ce que ça dit, verset 1er, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot hébreu qui donne le soleil, c'est un mot au féminin, c'est la chaude. La chaude, donc la chaleur, la chaude. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'amour de Dieu qui est comme étant là pour nous réchauffer. Si vous voulez, qui nous réchauffe intérieurement, qui réchauffe nos vies. Et notre pureté doit réchauffer les autres et les éclairer. Ça ne doit pas être un repoussoir. Si un chrétien, c'est un repoussoir, il y a un problème. Au contraire, nous devons attirer, non pas par ce que nous sommes en tant qu'individu, mais surtout parce que la lumière de Christ éclaire et attire. Si la chaleur de l'amour de Dieu nous purifie intérieurement, nous ferons écho à ce que dit 1 Jean chapitre 3, nous serons semblables à lui. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il y a là donc une pensée prophétique exprimée par Salomon que Jésus reprendra plus tard. Les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Un jour, vous serez brillants. Ça vient. Pour l'instant, vous êtes en bonne voie. Et l'Église a l'espérance du royaume de Dieu et d'une place qui lui est réservée. Puis la dernière mention dans ce verset, c'est « terrible comme des troupes sous leur bannière ». Et là, ça désigne la puissance de l'Église. Terrible sous ses bannières, il y a là la seigneurie du Christ, de son autorité. L'Église a avec elle la puissance de Christ, elle peut s'en servir et faire les œuvres que lui-même a déjà préparées. Alors, on va voir plusieurs choses sur lesquelles l'Église a autorité. Premièrement, les œuvres témoignages. Nous n'avons pas à craindre les œuvres démoniaques, parce que nous sommes vainqueurs. Et on est vainqueurs parce que celui qui est notre chef des armées, celui qui est notre soleil et qui nous illumine, celui dont nous sommes l'Église, le Seigneur Jésus, est celui qui a vaincu les puissances diaboliques. Amen. Et nous le croyons cela. Alors bon, je pourrais vous citer des exemples. Le possédé de Gadara. Est-ce que quelqu'un connaît son histoire? quelqu'un peut nous la raconter. Cet homme qui était possédé, il se meurtrissait, il poussait des cris, des hurlements. Il avait une caractéristique. On n'arrivait pas à le lier. Il mettait des chaînes, il brisait des chaînes. Il était enchaîné, il brisait des chaînes, c'est paradoxal. Il hurlait comme une bête. Et quand il a vu Jésus, il est venu se précipiter à ses pieds. Et ça, moi, je trouve ça remarquable. Remarquable. Parce que les démons lui sont soumis et les démons viennent aux pieds de Jésus pour demander grâce, pour lui demander, ce démoniaque, cet homme, est venu demander sa délivrance. Et Jésus l'a libéré. Rappelez comment ça s'est passé? Il leur donnait qu'ils partent dans un troupeau
de porcs
qui étaient là, des cochons qui étaient là. Ces cochons de cochons sont précipités à la mer et sont noyés. Ils y étaient environ 2000. Il y avait 2000 démons dans cet homme possédé du Capernaum. Vous savez, Jésus, il n'y a pas plus de 2000 paroles pour le chasser. Une parole et l'homme a été libéré. Le Seigneur a donné ce pouvoir, cette autorité à l'Église, et je crois que l'Église a ce ministère de délivrance sur les œuvres démoniaques, sur le péché, sur l'erreur, sur la maladie, sur tout ce qui peut faire obstacle à l'épanouissement humain. Et dans Marc chapitre 16, versets 15 et 18, il nous est dit ceci, « Voici les miracles qui accompagnèrent ceux qui avaient cru. Jésus leur dit, « En mon nom, vous imposerez les mains malades, et vous chasserez les démons. » Alors Jésus a autorité sur les puissants démoniaques, il a délégué cette autorité à l'Église, et sur la puissance du péché, faut-il craindre la magie? Non. Faut-il craindre l'idolâtrie? Non. Faut-il craindre la pornographie? Non. Faut-il craindre la puissance de l'argent, la puissance financière? Non. Parce qu'on a un Dieu qui est vainqueur. Alléluia. Et moi, j'y crois. Et toutes les passions qui peuvent animer l'être humain, le rendre malheureux, le rendre esclave, il y a la liberté, la délivrance qui est apportée au nom du Seigneur Jésus. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, terrible comme des troupes sous leur bannière. Et les bannières que va déployer le Seigneur sont les bannières du triomphe du ressuscité. Le cantique des cantiques qui revoche au chapitre 1er, verset 3, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. La bannière de Christ est une bannière pacifique, non pas du tout revancharde, non pas du tout mauvaise, mais c'est la bannière du triomphe du ressuscité, celui qui anéantit la puissance de la mort et du péché, le diable. Alors voilà comment Jésus voit son Église. L'important n'est pas ce que nous pensons de nous. Parce que des fois, ce qu'on pense de nous, ce n'est pas gagné. Ce qu'on pense des autres, c'est encore moins gagné. Et ce qui est important, c'est l'appréciation du Seigneur. Et moi, l'appréciation du Seigneur, je l'aime bien dans ce texte. Elle me plaît. Hein. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? C'est moi. Belle comme la lune, c'est moi, c'est mon Église, c'est l'Église de Poitiers, c'est l'Église de Jésus-Christ. Pure comme le soleil, terrible comme des troupes sous leur bannière, c'est qui? C'est nous. C'est nous tous les enfants de Dieu. Et nous aimons la vision que le Seigneur a de chacun de nous. Alors, de grâce, ne soyons pas durs les uns à l'égard des autres. Ne soyons pas méchants. Oh, il m'énerve, lui. Ah, oh, elle a encore... Et puis lui alors, c'est pas gagné, non. Ayons le regard de Jésus sur chacun d'entre nous. Vous savez, l'Église de Jésus, c'est quand même celle qu'il a rachetée par son sang. Et qui quand même a une certaine valeur aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tiens, je reprends toutes mes images. Bon, là, il y a une petite lumière. D'ailleurs, à ce propos, vous savez qu'il y a trois aurores ou trois aubes le matin. Il y a l'aube astronomique, l'aube nautique et l'aube civile. Toutes les trois correspondent à une inclinaison du soleil par rapport à l'horizon. Donc, si je ne me trompe pas, l'aube astronomique. C'est 30 degrés en dessous de l'horizon, l'autre doit être 20, et la civile doit être de 10 degrés en dessous de l'horizon. Et après, il y a le lever du jour, donc à l'horizon, donc, qui est effectivement l'aurore, qui est l'aube. Donc on voit une certaine luminosité. Une autre luminosité, moi je la trouve trop belle ça. Et une troisième luminosité, pure comme le soleil. Et une quatrième luminosité, terrible comme des troupes sur leur bannière. Vous avez remarqué que c'est grandissant, ça s'intensifie. Et la lumière que le Seigneur va déployer sur nous va grandir de plus en plus. Alors ne faisons aucune ombre à ce que Jésus veut faire dans nos vies. Si nous laissons faire, nous porterons les signes du royaume qui vient. Que Dieu soit béni. Qu'il nous aide à ce que sa parole s'accomplisse dans nos vies, à chacun.